Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous les auditeurs d'Aligre FM, bienvenue aujourd'hui pour cette émission du 14 octobre 2023. Nous sommes en direct, il est 16h pour une heure de philosophie au présent en partenariat depuis 5 ans avec le Collège International de Philosophie, une radio indépendante, une institution indépendante aussi, anciennement associative, de chercheurs, de philosophes. Et là, aujourd'hui, nous avons l'extrême plaisir de recevoir, un collectif presque complet, presque à son complet, vous nous le direz à l'instant, pour une émission qui s'appelle « Terrain philosophique, approche critique du pouvoir et des dominations ». Alors moi, c'est Nathalie Perrin, j'ai l'immense plaisir de recevoir, on va commencer par les filles, honneur aux filles, Pauline Vermeuren. Pauline, bonjour, tu es directrice de programme, vice-présidente du Collège international de philosophie. Voilà, et le titre choisi aujourd'hui, « Terrain philosophique, approche critique du pouvoir et des dominations », c'est le séminaire que tu mènes avec tes amis qui sont là aujourd'hui. Bonjour Pauline.
Tout à fait, bonjour Nathalie.
Voilà, on fera les présentations petit à petit. Voilà. Nous avons aussi l'immense plaisir de recevoir, donc, au sein de ce séminaire collectif que vous menez ensemble, Alison Bouffet. Bonjour Alison.
Bonjour.
Bonjour. Alors, tu es doctorante en philosophie au LCSP, Université Paris Diderot.
C'est ça.
Voilà. Et puis, un garçon, digne représentant, voilà, Théophile Laveau, docteur en philosophie, Théophile. Et tu es aujourd'hui post-doctorant, tu as déjà eu ton doctorat à l'université. Post-doctorant à quelle université ?
Bonjour, j'étais post-doctorant à l'université de Dijon, ça vient de se terminer. Voilà. Donc ma carrière de chômeur recommence après cette année de césure.
Oui, voilà, tous les chercheurs connaissent bien le chômage. Bon alors, on est là aujourd'hui pour parler de votre séminaire collectif qui s'appelle « Terrain philosophique, approche critique du pouvoir et des dominations ». Dans cette première partie d'émission, on s'est en réfléchissant un petit peu en collectif, et on ne va pas faire semblant de se vous soyer d'ailleurs, on va se dire tu, parce que voilà, on se dit tu dans la vie. On se demandait quelles étaient les nécessités qui avaient fait que voilà, vous êtes rencontrés autour de cette question du terrain, de la philosophie de terrain, qui est une question, je ne sais pas si nos auditeurs sont un peu au courant de ça, mais c'est vraiment aujourd'hui une manière de faire de la philosophie. Vraiment, on pourrait dire, on s'appelle Philosophie au présent, notre émission, mais c'est vraiment une manière de, dans ce présent-là, de repenser le travail philosophique avec la question du terrain. Alors, première question, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés autour de ce séminaire dont on rappelle qu'il va se tenir au Collège international de philosophie au second semestre de 2024, de février à juin. On rappelle tout de suite, mais on le fera à la fin de l'émission, à nos auditeurs qu'ils pourront trouver toutes ces informations sur CIPH.org, le site internet. Et je redis, j'en profite pour donner, pas pour redire, mais pour donner votre site internet à vous. Donc je lis bien terrainphilosophique.mytrikingly.com.
Terrain philosophique au pluriel.
Au terrain philosophique au pluriel. Et voilà. Et vous allez pouvoir trouver toutes les informations. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés autour de cette question ? Qu'est-ce qui meut votre séminaire ? Alors, vos rencontres, peut-être, ma Pauline, je t'en prie.
Si tu veux, je veux bien commencer par une petite genèse. D'abord, en fait, on s'est rencontrés avec Théophile à la suite d'une journée d'études que j'avais organisée sur le racisme d'État. Et progressivement, en discutant de cette question avec Théophile, on en est venu à parler de la question du terrain qui nous interrogeait dans nos pratiques philosophiques. Donc, juste pour parler de mon parcours à moi, et je pense que c'est intéressant qu'on parle en quelques minutes de nos parcours respectifs. J'aimerais préciser que donc moi, j'ai fait des études de philosophie, mais que j'ai aussi fait un master en sociologie et anthropologie sur les questions de discrimination, de sociologie du racisme et droit des étrangers. Et après, je suis revenue à la philosophie dans le laboratoire dans lequel Alison fait sa thèse, qui est le laboratoire de changement social et politique. J'ai constaté qu'un certain nombre de chercheurs qui disais faire de la philosophie avec en faisant des thèses avec des professeurs de philosophie, se retrouver à faire des terrains, notamment en Amérique du Sud, par exemple, à l'époque où j'y étais. Et je me rendais compte que, voilà, moi, je voulais travailler sur cette idée de questions noires, sur les questions raciales en France, et après, donc, sur les questions postcoloniales. Et je me rendais compte que, en philosophie, c'était assez compliqué de l'approcher de telle sorte. Et donc, je n'arrêtais pas de faire des navettes entre les disciplines. Je me sentais vraiment entre plusieurs disciplines, entre la socio, l'anthropo, la littérature aussi, les sciences politiques. Enfin, du coup, j'avais tout un corpus qui n'était pas du tout que philosophique, même si j'ai travaillé les questions de subjectivation politique et les questions de phénoménologie avec Fanon, Sartre et puis pas mal avec Rancière. Mais je voyais bien qu'il fallait que j'aille explorer d'autres corpus et que la philosophie n'était pas suffisante. Et donc, j'ai toujours eu un sentiment qui manquait quelque chose que je ne connaissais pas du tout encore à l'époque. Et j'avais même une forme d'inquiétude, et je pense qu'on reviendra sur ce sentiment d'inquiétude, pour aborder ces sujets qui étaient des sujets polémiques, mais aussi d'un point de vue épistémologique, aussi du point de vue de l'usage des termes, et notamment de l'usage du terme race, qui posait à cette époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était il y a en fait quelques années, et depuis les choses ont un peu changé dans les universités et dans les laboratoires, mais voilà, une difficulté, une forme d'indicibilité à dire notamment le terme de race. Et donc quand j'ai commencé à discuter avec Théophile, et après quand on a initié des discussions avec Alison et Hervé, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui nous rejoignait sur cette idée de faire un pas de côté par rapport à nos pratiques philosophiques, par rapport à nos formations philosophiques.
Oui, donc ce pas de côté de la philosophie de terrain que tu découvres. Alors on rappelle que Théophile Lavaux, Alison Bouffet et Pauline Vermeren, vous êtes trois représentants d'un séminaire collectif au Collège international de philosophie, dont on rappelle le titre, Terrain philosophique, approche critique des rapports de pouvoir et de domination, mais qu'il y a une quatrième personne qui ne peut pas être là, dont on rappelle le nom, tu l'as rappelé.
Hervé Nicole, qui est doctorant au Sophia Paul à Nanterre et qui en fait habite actuellement en Afrique de l'Est.
D'accord, donc voilà, on tenait à rappeler qu'il fait partie de ce collectif. Alors, Alison, c'est l'occasion de mieux connaître aussi et ton rapport et cette inscription dans ce séminaire collectif. Je serais amenée à vous poser une question sur précisément ce rapport du collectif au terrain. Alison, comment tu en es venue, Alison Bouffet, comment tu en es venue précisément à travailler la question du terrain dans ton propre parcours de recherche, puisque tu es jeune chercheur?
Oui, je suis encore en thèse, en cinquième année. Finalement, d'un point de départ qui est assez similaire à celui de Pauline, qui est celui d'une forme d'indicibilité ou d'une expérience de l'indicibilité, pas dans le milieu universitaire directement, mais plutôt dans des collectifs militants et des expériences militantes que je faisais à l'époque, dès 2015, autour de la question du droit des personnes étrangères et de leur statut et de la manière dont on désigne les personnes étrangères en France, et une forme d'inconfort, de malaise, qui persistait dans plein de luttes différentes dont je pouvais être témoin. À la fois les luttes de demandeurs d'asile en 2015, à l'été 2015 à Paris, les luttes des étudiants exilés pour intégrer l'université française, et puis les luttes des personnes sans papier pour régulariser leur situation donc au sein des permanences juridiques. Et donc j'ai expérimenté ces différentes situations, plutôt en tant que soit témoin, soit parfois militante. Et ma thèse, finalement, la problématisation de ma thèse est partie de ces situations. Je venais plutôt de la philosophie classique et d'une formation très classique en philosophie, plutôt spinoziste à la base et en histoire de la philosophie. Et face à ces expériences d'impuissance politique aussi, de colère, on reviendra peut-être aussi sur cette question affective qui nous meut et qui parfois est au point de départ de nos problématisations philosophiques. À partir de là, j'ai construit un projet de thèse qui visait à nouer cette réflexion sur la difficulté à catégoriser les personnes étrangères, à les nommer. migrants, étrangers, réfugiés, demandeurs d'asile, sans papiers, etc. Et j'ai voulu croiser ce vécu et cette difficulté de la prise de parole avec une question plus philosophique, plus classique peut-être, qui est celle de la construction des sujets politiques à partir d'un corpus de Michel Foucault, Judith Butler, Étienne Balibar, Jacques Rancière. Et donc j'ai essayé de croiser comme ça en m'interrogeant sur la construction d'une sorte de sujet hégémonique que serait le sujet national. Et de croiser en retour ces formes d'exclusion produites par l'extranéité.
Et du coup, excuse-moi de te couper la parole. Alors, ta thèse de doctorat, elle prend quel titre ? Elle a quel
Ça s'appelle Le sujet de l'immigration.
Super. Voilà.
Et donc, dès le départ de mon projet, j'ai eu une difficulté méthodologique qui était comment intégrer des matériaux qui étaient à la fois des expériences personnelles, des observations, parfois des entretiens, parfois des consultations d'archives. Et j'avais vraiment une difficulté à savoir comment intégrer ça, alors que pour moi, c'était le point de départ de ma problématisation. Et donc, il était nécessaire de pouvoir le montrer. Et donc, je me suis sentie assez seule, en fait. Mmh. Et c'est finalement en découvrant, en rencontrant Théophile et Pauline et Hervé, que j'ai commencé à me dire que ce problème du matériau était absolument nécessaire, n'était pas en fait anecdotique en fait dans le travail philosophique, mais devait être central même dans mon travail de thèse. Et donc voilà, finalement, ça a été un peu une sortie de l'isolement aussi et une mise au centre de mon travail de cette question du terrain ou de l'approche expérientielle quoi, des objets qu'on thématise en philo.
Oui, voilà. Alors j'entends depuis le début, et ça sera intéressant, hein, les termes d'inquiétude hein, du côté de Pauline, une colère de ton côté, Alison. Alors on passe la parole à Théophile Laveau, voilà le troisième membre présent ici de ce collectif Terrain philosophique, approche critique des rapports de pouvoir et de domination, séminaire collectif qui va se tenir, on le rappelle, au second semestre au Collège international de philosophie, enfin plutôt au campus Condorcet, hein, ce sera votre lieu comme ça l'était l'année dernière. Alors Théophile, d'abord mieux te connaître et puis ta relation avec le terrain, la philosophie de terrain qui fait que tu mènes ce séminaire en collectif ?
Nos parcours sont étonnamment cohérents alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Mais c'est vrai que moi, c'est des questions qui m'ont travaillé aussi à partir du moment où, par des engagements militants et notamment par des permanences en droit des étrangers et d'une prise de conscience d'un droit de police extrêmement étendu sur une partie de la population et qui semblait en fait complètement impensable dans un État démocratique, quoi. Et de se rendre compte que la condition d'étranger et le mode de contrôle qui pouvait être opéré sur la vie des étrangers, sur toutes les étapes de la vie des étrangers, puis un contrôle qui n'est pas simplement une surveillance, hein, qui peut être un contrôle avec des formes de sanctions très très fortes qui vont jusqu'à la rétention, l'enfermement des étrangers ou, dans le pire des cas, à l'expulsion, m'a fait dire que j'avais envie de mettre la philosophie au service de ces questionnements-là, mais sans savoir trop comment m'y prendre. Et finalement, de manière un peu inductive, ça m'a amené aux archives de la préfecture de police de Paris, chercher des occurrences du mot étranger, essayer de comprendre, disons, d'avoir des traces, des pratiques matérielles du contrôle des étrangers. Et tout ça, de fil en aiguille, m'a amené à interroger finalement les généalogies coloniales de cette figure de l'étranger dans les pratiques de police et la manière dont on peut retrouver tout un tas de pratiques coloniales, notamment, et c'était le sujet de ma thèse, pendant la colonisation algérienne, puis pendant la guerre d'Algérie, qui vont déterminer des pratiques de contrôle et surtout des pratiques et toute une épistémologie coloniale, tout un tas de multiplicité de savoirs qui vont être mis au service de politiques aujourd'hui xénophobes et dont on peut retracer la généalogie. Et donc, c'est aussi donc par l'engagement militant qu'une forme de visibilité d'un problème social a pu s'opérer et que j'ai voulu travailler par la philosophie. Ce qui est intéressant, il me semble aussi, c'est que, comme tu as pu le constater, aucun de nous n'avons fait de terrain à proprement parler, dans nos propres expériences, qui ne sont pas que des expériences de philosophes, bien heureusement, il y a des terrains, c'est-à-dire il y a une empiricité d'un certain nombre de problèmes, aussi par la pratique de solidarité concrète, qui nous ont menés à vouloir faire de ces espaces-là des espaces qu'on puisse investir par la philosophie et de manière un peu conceptuelle. Et en fait, c'est peut-être ce qui nous a réunis aussi, et c'est dans ce projet-là, c'était de se dire, il semble y avoir justement une inquiétude partagée, des pas de côté, puisque ce qu'on a pu tous en tout cas expérimenter, c'est l'usage de matériaux extra-philosophiques à l'intérieur de travaux académiques qui s'inscrivaient en philosophie, un problème de savoir quoi faire de ces matériaux, comment les légitimer dans un exercice de critique conceptuelle. Et de là est arrivée l'envie, non pas nous, de valoriser notre propre rapport au terrain, qui n'existait alors pas encore, mais justement d'essayer de faire un premier événement qui a été ce colloque en novembre, avant qu'on puisse faire le séminaire et qu'on puisse avoir le soutien du Collège international de philosophie, avec cette idée d'essayer de... coordonner, pas de coordonner, mais disons de créer un espace où les gens qui sentaient cette même inquiétude, qui avaient ces mêmes envies de pas de côté, qui sentaient aussi un malaise dans leur rapport à l'institution académique, puissent venir exposer ce malaise-là, justement, et leur manière d'y remédier dans des terrains très, très différents. Et donc, ça a été la première pierre, ça a été voilà, un espace de rencontre où chacun puisse exposer un peu ce rapport... parfois des rapports très différents qu'il peut y avoir au terrain, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu non plus nous assumer l'idée d'une philosophie de terrain qui ne nous appartenait pas, n'étant pas sur le terrain à proprement parler, mais d'expérimenter ou d'explorer ce que pouvaient être des terrains philosophiques et donc des rapports pluriels à un terrain investigué par des gens qui se revendiquent à l'intérieur de la discipline philosophique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors bon, je vous remercie de vous avoir, de vous être présenté comme ça dans ce séminaire collectif autour de la question de la philosophie de terrain. On rappelle que sur Aligre FM, le podcast sera disponible grâce à nos techniciens chéris qui font tout le travail. Voilà, et aujourd'hui, c'est Julien Cherdieu qui est aux manettes, voilà, qui nous aide. Alors, on s'était dit que j'allais vous poser une question sur peut-être la relation du collectif et du terrain, non seulement la relation de votre séminaire qui est collectif et qui travaille cette question éminemment au présent, éminemment nouvelle du terrain, mais avant toute chose, si vous permettez, on va citer une personne qui pour vous est très importante, qui est Christiane Voller. Alors Christiane Voller, nos auditeurs la connaissent puisqu'elle est venue plusieurs fois dans notre émission. Je cite son ouvrage qui est une référence pour une philosophie de terrain qui a paru aux éditions Créafis en 2017. Et un petit passage, page 38-39, je recommande chaudement cet ouvrage à nos auditeurs, écrit très clairement. Pour qui connaît Christiane Voller sait à quel point, bon, d'abord elle était prof de philo pendant plus de 20 ans, me semble-t-il, et elle est très très claire. Alors je lis. Le terrain philosophique se distinguera ainsi à la fois du terrain sociologique, tel qu'il est orienté comme enquête susceptible de fournir des données objectivables, du terrain anthropologique, tel qu'il est orienté vers la mise en évidence de constantes contextuelles, du terrain policier, tel qu'il est orienté vers la mise en accusation par la résolution d'énigmes. Il s'en distingue par son origine autant que par sa finalité, mais aussi par ses modalités. Pas de questionnaire rigide, mais une orientation de questionnement. De ce point de vue, l'entretien qualifié de compréhensif peut s'y apparenter. Pas de médiation technique, mais un effort corrélatif de l'interrogateur et de l'interrogé pour tenter de se comprendre. Il tente d'établir, dans des conditions qui sont celles de la dissymétrie, de l'interrogateur par rapport à l'expert supposé être au-dessus ou par rapport au témoin victime supposé être au-dessous, une relation égalisante de symétrie qui destitue l'interrogé de son surplomb lorsqu'il est supposé expert ou, au contraire, le fasse sortir de sa condition subalterne lorsqu'il semble y être socialement assigné. Alors, plusieurs questions là que je vous pose en vrac. La question 1, vous travaillez en collectif, et ça pour moi, ça me fait énormément réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de travailler un rapport à la philosophie sur la question du terrain en collectif? Est-ce que c'est signifiant pour vous et sur quel plan? Je parle bien aussi du fait de co-gérer ce séminaire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire sur la conceptualisation philosophique? Comment vous vous situez aussi par rapport au livre de Christiane Voller, à son ouvrage pour une philosophie de terrain? Et une dernière chose, alors, est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs que la philosophie de terrain, est-ce que vous vous réclamez d'une idée d'un engagement? Comment vous vous situez par rapport à Sartre, par exemple? En quoi la philosophie de terrain n'est pas la philosophie de l'engagement telle que Sartre aurait pu, a pu la mettre en place? Là, je crois qu'il y a des questions, voilà. On reprend un petit peu, mais on ne se distribue pas la parole. Hein. Je rappelle qu'on est un peu dans l'improvisation aussi. Mais Pauline, première réponse.
Juste quelques éléments, mais Alison et Théophile compléteront. Déjà, je voulais revenir sur cette question du collectif, c'est-à-dire que cet échange a été important, mais aussi extrêmement, je pense, nourrissant pour pouvoir continuer à penser dans chacune de nos recherches, et peut-être aussi pour Alison qui était en train de faire sa thèse, et pour Hervé qui est aussi en train de faire sa thèse, mais pour nous aussi pour poursuivre dans nos postdoctorats, et en tout cas dans ces discussions, dans ces apports de références, et surtout aussi parce que je pense qu'il y avait une question presque de se demander, est-ce que nous sommes vraiment légitimes à penser ça dans le champ de la philosophie ? Mmh. Il y a aussi quand même cette question de cette inquiétude de légitimité à s'interroger sur le rapport de la philosophie avec l'empirie. Ça, je pense qu'on est tous... intéressé par ce rapport-là, et du coup comment est-ce qu'on appréhende cela. Et je pense que notre séminaire il n'est pas construit comme quelque chose où on va apporter des définitions ou apporter une forme de méthodologie, c'est-à-dire que pour l'instant, et je ne sais pas s'il en sera question, mais il n'est absolument pas question de définir une méthodologie d'une philosophie de terrain. Et d'ailleurs je pense pas que ce soit l'intérêt non plus de Christiane, même si elle esquisse en fait des propositions par rapport à ce que font aussi les sciences sociales, notamment puisque Christiane pratique beaucoup les entretiens.
Oui, Christiane Voller, et oui, et elle a une pratique de l'entretien qui est très, très singulière. Hein.
Tout à fait, qui est bien propre à elle.
Il n'y a pas de technique, il y a juste le crayon et la prise de notes. Voilà.
Très longs entretiens.
Tout à fait.
Qui, du coup, la font dériver sur plusieurs choses. Donc, il y a cette idée qu'il n'est pas, il n'y a pas une idée de fonder une méthodologie, il n'y a pas l'idée il n'y a pas une visée normative particulière. Mais en tout cas, essayer de comprendre aussi, parce que finalement, notre séminaire, il se construit pour l'instant avec des personnes qu'on invite, chercheurs, on va dire, confirmés, mais on va pas faire cette distinction entre jeunes chercheurs et en fait toutes sortes de chercheurs qui sont principalement dans le champ de la philosophie. Mais pendant le colloque, on a aussi invité un anthropologue qui était Michel Agier et des personnes qui sont à la frontière avec la philosophie. Et notre intérêt, c'est d'essayer de voir comment chacun, en fait, se débat. Comment chacun s'approprie, comment chacun se frotte en fait à cette pratique philosophique qui n'est pas véritablement théorisée dans la discipline philosophique, qui nous est jamais enseignée. Et donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir tous ensemble à ça ? Et je voudrais rajouter sur la question du collectif que moi, j'arrive au collège international de philosophie à partir d'un programme
en 2022,
à partir d'une proposition de programme. Mais il a été évident que puisque j'étais en pleine discussion avec Alison, Théophile et Hervé sur ce projet-là, il a été évident pour moi de proposer une direction de programme collective. Et justement, je pense que, on y réfléchit actuellement au collège de philo, de se demander si ça serait pas intéressant aussi de favoriser davantage les directions de programme en collectif, puisque le collège de philo est par définition une expérimentation de la collégialité.
Tout à fait.
Donc pourquoi pas aussi d'un point de vue scientifique et pas que d'un point de vue technique pour assurer une institution qui n'est pas vraiment une institution en tant que telle, qui est une forme de contre-institution,
oui, oui.
Mais bon, c'est
ouais.
Encore un autre débat,
oui.
Sur ce qu'est le collège de philo. Mais voilà, peut-être faire rentrer peut-être davantage de recherche en collectif.
Ouais. Très bien. Alors, on a encore 7 minutes avant une petite pause musicale qu'on fera vers 16h30. Et là, je regarde Julien Cherdieu derrière la vitre qui nous sépare encore 7 minutes. Alison Bouffet, alors, cette question du collectif, la question aussi de l'engagement par rapport à Sartre, est-ce que vous reprenez ce terme de l'engagement et comment la philosophie de terrain finalement se positionne par rapport à ces anciennes philosophies qui se réclamaient de l'engagement. Alison
Oui, un petit mot sur le collectif. Je rejoins totalement tout ce qu'a dit Pauline hein, sur cette importance. J'ajouterais peut-être aussi le niveau conceptuel, la question de l'invention conceptuelle qui se joue dans la discussion et dans la rencontre.
Oui, tout à fait.
Et à ce sens-là, je pense que c'est ce qui nous touche beaucoup dans le travail de Christiane Voller, dans son travail d'entretien. C'est quelque chose qu'elle porte, c'est l'idée de tenter de créer un espace dans l'entretien qui produit de la co-conceptualisation, que le concept va venir émerger de la discussion avec les personnes, y compris quand elles sont subalternes, et j'ai envie de dire, dans le point de vue peut-être de Christiane Voller, surtout quand ces personnes ont peu accès à la représentation ou à l'écoute dans la société, pour le dire rapidement.
Oui.
Et donc justement, l'entretien va être un moment où la rationalité propre de la personne, sa manière de construire sa propre expérience et d'être capable de la rendre audible, va venir croiser la subjectivité du chercheur, et il va se produire quelque chose de l'ordre de la conceptualisation commune. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très inspirant. Peut-être qu'on a gardé, nous, un soupçon sur la capacité de la posture philosophique à assumer ou à réussir à créer de l'égalité. Je pense qu'on garde un petit peu toujours ce soupçon-là qui nous habite de comment, même quand on essaie de produire de l'égalité dans les entretiens et les rencontres, le fait même de faire de la philosophie et notre éthos philosophique peut peut-être venir réintroduire de la symétrie. Mais en tout cas, dans notre collectif de recherche, on a vraiment... Moi, j'ai l'impression que tous les concepts qu'on a essayé de construire, terrain philosophique, les questions méthodologiques, viennent vraiment de la discussion, que rien ne m'est en propre ou rien ne m'appartient en propre. Et avec cette certitude qui peut paraître évidente, mais qui en fait est peu favorisée par l'institution philosophique, qu'on pense jamais seul, qu'on pense toujours avec les autres, et d'essayer de restituer ça, de montrer que tout le processus de pensée n'est que mise en relation des uns avec les autres, déplacement, et que ce déplacement, il s'opère à plusieurs, quoi. Donc ça, je pense que c'est un point presque de méthodologie aussi philosophique qui me semble essentiel.
Oui, c'est ce que j'avais, quand j'étais venue vous écouter l'année dernière, j'avais été vraiment épatée par ça, c'est-à-dire vraiment une table où il y a plusieurs voix qui s'expriment, où le public, il est là aussi pour dire ce qu'il pense. Et j'ai beaucoup aimé le terme que tu emploies, Alison, cette idée que voilà, tout le monde a une rationalité. Enfin, c'est pas un terme qui appartient à la philosophie, c'est-à-dire ce que l'on dit de là où on est apporte quelque chose dans le champ du concept et pour construire. Conceptualiser. Donc, cette question du collectif, c'est finalement la destitution de l'auteur ou du moi-je créateur qui avait déjà été destitué par une de vos figures de référence, Michel Foucault, voilà, et qui me semble très intéressante et liée précisément à votre travail sur la philosophie de terrain. Enfin, ça, il me semble que c'est, en tout cas, c'est ancré.
Et d'ailleurs, dans ce sens, je tiens à dire que cette idée de rationalité des personnes interrogées vient souvent de Théophile Lavaux. Et donc, encore une fois, là, j'ai pris ce mot. Mais ça vient aussi des discussions avec Théophile. Oui, et cette question de Foucault, je vais peut-être te donner la parole aussi, Théophile, là-dessus. Mais je pense que c'est essentiel pour nous, par rapport à Sartre, hein, dans le débat classique Sartre et Foucault. On se situe plutôt quand même du côté de Foucault.
Oui.
Et la question des luttes localisées, davantage que d'un engagement global. Je pense que ça impacte effectivement une manière de faire de la philosophie.
Oui, si tu veux... Théophile Lavaux. Alors, cette question du collectif, le rapport Sartre-Foucault, vos références finalement philosophiques, un peu pour éclairer cette présentification de la philosophie de terrain.
Pour ma part, moi, pour avoir plutôt subi justement un parcours de recherche doctorale très solitaire, quoi, du fait de ce décalage par rapport aux attentes institutionnelles, ça a été une vraie restauration de ma confiance ou de ma foi dans le fait de faire de la recherche que de rencontrer, d'une part, Alison, qui a pu monter avec Juliette, mon voisin, un projet qui s'appelle Philomigre, hein, philosophie des migrations, et dans lequel, après un colloque liminaire, s'est vraiment institué un collectif de recherche avec tous les jeux de concurrence qui n'étaient pas du tout mis à l'œuvre, celles qu'on retrouvait dans l'université. Plus on monte et plus ces jeux de concurrence se resserraient dans une institution qui reste effectivement, comme tu le disais, très bourgeoise et très centrée sur un espèce d'individu génial, créateur, d'une pensée comme ça immanente. Et donc le collectif, j'ai retrouvé de la joie à faire de la philosophie par le collectif. Sinon, je pense que j'aurais arrêté complètement de faire ça. Et c'est une expérience qu'on a vraiment pu renouveler là-dedans. Et ce projet scientifique qui nous a mené au séminaire, c'est vraiment un projet qui a pu être écrit à quatre mains et qui est né d'une joie de discuter ensemble et avec une espèce de... Voilà, ça prenait, il y a quelque chose qui prenait. Il y avait quelque chose de l'ordre d'une création un peu conceptuelle commune. Et pour moi, c'était des vrais moments de plaisir que d'essayer d'élaborer ce projet scientifique. Et donc, je pense que ça a été notre première expérience collective, en tout cas, qui a été constitutive. Après, je pense qu'effectivement, la question du collectif, elle est extrêmement importante à plusieurs niveaux. C'est que du coup, faire de la philosophie de terrain, ça veut dire aussi faire une philosophie où on essaie. Et c'est ce que disait Alison, on peut essayer de travailler l'égalité, la posture d'intellectuel, qui plus est de philosophe, crée forcément des formes de hiérarchisation symbolique qu'on ne peut pas ignorer. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit on va sur le terrain que d'un coup, tout disparaît bien et sûr. Qu'on devient un anonyme. Mmh. Et que du coup, le collectif, ça veut dire aussi de comprendre comment sur le terrain, cette question de la co-conceptualisation, de justement pouvoir abaisser les effets de hiérarchisation entre des rationalités qui vont être valorisées et d'autres moins, de tout ce que... Et en fait, tout ça, cette question des rationalités, évidemment, ça vient de Michel Foucault, la question des savoirs enfouis, des savoirs dissimulés, de pouvoir les restaurer. Mais l'idée de la philosophie de terrain, c'est pas simplement de les restaurer par l'archive, c'est aussi de les restaurer par des pratiques sur le terrain. Alors, ça peut être des pratiques de solidarité ou par un dialogue qui s'ouvre où la parole de l'autre ou sa manière de penser le monde peut être intégrée à une réflexion plus collective. Après, le soupçon, c'est aussi celui du philosophe qui viendrait se rétribuer, lui, depuis sa posture philosophique, sur justement toutes ces rationalités qu'il serait le seul capable de restituer en publiant des ouvrages, en faisant sa carrière. Donc voilà, évidemment, tout ça ouvre un certain nombre de soupçons. Et qui sont les mêmes soupçons, finalement, qui renvoient à cette posture de l'engagement que tu posais, qui, à mon sens, moi j'ai beaucoup de mal, mais ça ne concerne pas que les philosophes, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de l'intellectuel engagé.
Oui.
L'intellectuel peut s'engager dans la société civile, l'intellectuel engagé parce qu'il ferait de la philosophie critique, par exemple, ça me semble un peu limité. Je pense, à ce moment-là, dire qu'on fait de la philosophie critique, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Mmh. Ça peut être des outils qui vont être mis à la disposition des luttes sociales, qui vont pouvoir être diffuser, être remaniés, être critiqués dans le champ des rapports de force qui s'instituent dans le social. Mais je ne pense pas que par sa seule production conceptuelle, un philosophe participe aux rapports de force. Il les nourrit peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas une participation directe. Et donc, je pense que un intellectuel a le droit d'être militant comme n'importe quel autre citoyen, mais l'intellectuel engagé, oui, pour moi, ça ouvre à pas mal de soupçons.
Oui, j'ai l'impression que... Alors moi, je suis très sensible à ce que tu viens de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a ça au cœur de votre pratique de la philosophie de terrain, c'est-à-dire, en fait, tout le monde est intellectuel, en vérité. En vérité, tout le monde est intellectuel. Enfin, je veux dire...
Tout le monde pense du...
Tout le monde ne bénéficie pas du statut parce qu'on n'en donne pas à ces gens-là minorés la possibilité. Or, précisément, la philosophie terrain, c'est une manière de montrer que tout le monde est intellectuel, finalement. Finalement, que tout le monde pense là où il est, dans le champ, là où il habite, cet espace de terre, de géographie, d'histoire, là où il a quelque chose à dire. Et précisément, il intellectualise comme nous qui avons soi-disant cette posture parce qu'on a un doctorat, parce qu'on est chercheur, etc. Il y a quelque chose de très intéressant. Enfin, on pourrait même dire l'enfant est intellectuel, enfin, je veux dire.
Évidemment, et pour pratiquer la philosophie avec les enfants, ils le sont souvent avec une puissance qu'on a perdue depuis longtemps par justement des effets de codification. Et je pense que c'est ça qui est la valorisation de ces rationalités. En fait, valoriser certaines rationalités par rapport à d'autres, elles répondent à des formes de codification symbolique et sociale extrêmement ancrées, propres à une société bourgeoise extrêmement ancrée dans les modes de représentation dominante de nos sociétés. Et l'idée, c'est peut-être ça aussi. Mais ça veut dire aller loin. Ça veut dire que pour l'instant, nous, le séminaire qu'on a produit est un séminaire qui est à l'intérieur de l'institution, même si c'est par le CIPH. On est dans les locaux de Condorcet. On a un public qui est un public universitaire.
Oui.
Et donc, même si par les pratiques de recherche que les gens viennent présenter, ils tentent de jouer sur ces effets de codification, pour l'instant, la manière de les restituer reste tout à fait ancrée dans cette codification bourgeoise d'une valorisation avec ses codes, avec des modes de discursivité, avec un langage qui est celui que l'académie accepte et valorise. Et donc, je pense que l'étape d'après, ça va être justement de comment est-ce que des gens qui ne maîtrisent pas ces codes sociaux puissent se sentir à l'aise dans des espaces de recherche communs. Et ça, c'est un vrai enjeu à venir, il me semble.
Oui, tout à fait. Ça participe peut-être, mais on y reviendra dans la seconde partie de l'émission, peut-être d'un engagement d'une certaine popularisation de la philosophie ou d'une philosophie populaire. Est-ce que la philosophie de terrain peut s'inscrire dans cette question-là? On va faire en tout cas on répondra, ou pas, on verra bien, dans cette seconde partie d'émission, après une petite interruption musicale que tu as choisie, Pauline. Hein. Voilà une chanson de Mariem Hassan, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà. Ben, on écoute. Merci beaucoup, Julien, à la technique.
Aligre FM 93.1.
Super, merci beaucoup. Quelle belle musique, voilà, choisie aujourd'hui par nos invités, Pauline Vermeren, Alison Bouffet, Théophile Lavaux Et puis au loin, votre quatrième collaborateur, Hervé Nicole. Voilà, pour parler d'un séminaire au Collège international de philosophie qui va se tenir au second semestre 2024, vous êtes bien sûr à l'IGREFM, on est bien en direct, il est 16h38 et j'ai mon iPhone là sous les yeux pour vous dire qu'on vient d'écouter Mariem Hassan et que c'était absolument magnifique. Voilà, alors nous reprenons ce dialogue avec nos invités autour de cette question de la philosophie de terrain, de votre séminaire, terrain philosophique, approche critique des rapports de pouvoir et de domination. Ce que je retiens de cette première partie de l'émission, pour faire découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que la philosophie de terrain, alors on reviendra au rapport à l'ouvrage de Christiane Voller pour une philosophie de terrain, qui est un ouvrage qui a fait date quand même, en 2017, aux éditions Créafis. Ce que je retiens, c'est qu'il y a dans la philosophie de terrain l'idée que... la philosophie n'est pas là pour, on pourrait dire, produire un savoir définitif, absolu, dans un rapport comme ça de vérité universelle, mais qu'elle est, finalement, elle est menée par les terrains auxquels elle a affaire. Et on a bien vu que la question du terrain, c'était d'abord pour vous des questions, on pourrait dire, intimes presque, de révolte. Voilà. Je retiens aussi que vous êtes, finalement, la philosophie de terrain est toujours dans un rapport à l'enquête, une enquête sur un réel, qui est constamment en mouvement. Donc du coup, la philosophie qui se pratique est elle aussi une philosophie, je dirais, en mouvement, jamais certaine. D'abord, on a bien senti l'inquiétude qui vous habitait les uns et les autres, cette inquiétude d'être dans ce monde et en même temps sans illusion. C'est-à-dire, on parlait d'égalité, comment on fait réapparaître, comment on essaie de montrer qu'il y a des rationalités à l'œuvre et qui ne sont pas nécessairement les rationalités qui appartiennent à un certain monde, celui de la recherche, mais qu'il y a des rationalités, comment les faire apparaître et en même temps ne pas être dupe. Enfin, la philosophie par elle-même ne produit pas de l'égalité. Bon. Pauline, tu voulais rebondir peut-être alors, et revenir aussi sur le rapport à Christiane Voller et à son ouvrage.
Oui, je voulais apporter quelques petites précisions. D'abord, dire qu'effectivement, il y a Christiane qui est très importante pour nous.
Oui, Christiane Voller pour une philosophie de terrain, je ne répéterai pas assez.
Qui a publié son ouvrage en 2017. Oui. Il y a eu un second ouvrage qui a été publié en 2022.
Oui.
Mais il y a aussi un manifeste pour une philosophie de terrain, un très gros ouvrage qui rassemble un certain nombre d'articles dans lequel Christiane a aussi publié, qui a été publié en 2021. Autour de...
Qui a été publié en février 2023 aux éditions universitaires de Dijon.
Ok, d'accord, je pensais que c'était un peu plus tôt. Mais parce qu'on est en contact, avec un certain nombre de personnes qui ont travaillé dans cette équipe de l'ENS. Je voulais rajouter le fait que, avec certaines de ces personnes, on anime entre nous, et c'est quelque chose d'un peu... c'est pas quelque chose de public pour le moment, une sorte d'atelier de terrain philosophique sur lequel on fait un retour de partage d'expérience à partir de nos propres recherches respectives. Donc en fait, il s'agit bien pour nous que ce soit d'un point de vue interne ou d'un point de vue plus externe dans le cadre du séminaire, d'une sorte de working progress. Mmh. On est vraiment dans un champ de questionnement sur comment est-ce qu'on travaille avec tout ça, comment on travaille tous ensemble et qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Donc, on a aussi encore beaucoup d'interrogations. Je voulais préciser aussi le fait que notre collectif à nous, je ne sais pas si on peut l'appeler collectif, mais en tout cas nos discussions. Pour nous, c'était important de les ancrer dans le champ politique et donc de parler de ces questions de pouvoir et de domination parce que ça a recoupé, en fait, tous nos travaux respectifs. Mmh. Pour nous, ça, c'était très important. Et donc, on s'est posé un certain nombre de questions, à savoir quel était notre rapport à la philosophie politique, quel était notre rapport à la philosophie sociale, notamment dans le manifeste de la philosophie sociale de Frank Fischbach et dans toute une tradition de la philosophie politique. Donc, comment est-ce qu'on s'inscrit aussi là-dedans? Ce qui a été intéressant pour nous de voir, c'est peut-être que En tout cas, on avait le sentiment entre nous d'initier une autre voie ou en tout cas quelque chose qu'on était en train de construire de cette voie-là, de la philosophie de terrain. Mais on va discuter justement de ce terme de philosophie de terrain qu'on a d'une certaine manière un peu renversé. Et notamment parce qu'il y a cette idée de la transformation de soi. Dans cette pratique de la philosophie telle qu'on a envie de la faire, en fait, parce que c'est aussi des choses on a été appelé un peu percuté de fait, et du coup il y a une forme de nécessité en fait là-dessus. Donc c'était les points sur lesquels je voulais revenir. Peut-être que je laisse Alissane et Théophile expliquer ce choix du titre « Terrain philosophique » et en quoi il discute bien évidemment avec ce que propose Christiane, qui pour nous est fondamental, et en quoi il trace pour nous des nouvelles propositions.
Ah oui, c'est très intéressant parce qu'en vous écoutant, je m'aperçois que je parle de philosophie de terrain. Or, le titre de votre séminaire, c'est bien « Terrain philosophique, approche critique des rapports de pouvoir et domination ». Alors, la question de la philosophie de terrain supposerait davantage un rapport plus méthodique. Les terrains philosophiques, c'est d'abord eux qui sont premiers et qui viennent d'une certaine manière vous transformer en tant que chercheur. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pauline, c'est-à-dire c'est d'abord une transformation de soi, le terrain. Soit le chercheur, celui qui a un doctorat ou qui est en train d'en faire un, mais soit, je veux dire, au sens intime du terme. Donc, du coup, la philosophie, notre pratique philosophique en est transformée elle-même, nécessairement, par l'écriture, par les lectures, par l'écoute, etc. Je prends trop la parole, mais Alison Bouffet ou Théophile Lavaux, vous prenez la parole comme vous le souhaitez.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup tenu à cœur, ce pluriel, terrain philosophique au pluriel, et cette idée que c'était pas le philosophe tant qu'il allait sur le terrain avec une sorte de problème préalable et un set de méthodologies et d'outils techniques à disposition pour enregistrer la parole du terrain, mais c'est vraiment certains terrains, certains domaines d'expérience qui venaient nous saisir ou nous interpeller et qui venaient produire des problèmes qu'ensuite on allait essayer d'éclairer en utilisant nos formations philosophiques pour les approfondir d'une certaine manière. Mais c'est vraiment cette idée, je rejoins cette question d'appel ou d'interpellation par un problème qui est vécu en première personne, et donc ensuite le travail philosophique doit intégrer d'une certaine manière la subjectivité du chercheur en tant qu'il n'est pas un individu désincarné, capable d'enregistrer la parole de tout le monde et lui d'être extrait des relations de pouvoir et des relations sociales qui le constituent comme chercheur. Donc l'idée, c'est de remettre au centre cette position du chercheur en philosophie et de remettre au centre son affectivité. Et ça, c'est un terme qui nous tient beaucoup à cœur au séminaire. On parle souvent d'affect épistémique, cette idée que les affects ou les émotions ne sont pas distinctes du travail rationnel philosophique, mais au contraire, les affects viennent nous travailler, viennent à la fois construire les problèmes. J'ai parlé de la colère tout à l'heure, mais la colère, l'intolérable chez Foucault, la rage, la tristesse, ou au contraire, la joie, le saisissement, l'enthousiasme, sont des affects qui vont produire de la pensée et nous donner envie de continuer à penser. Et de l'autre côté, la recherche va nous transformer, parfois aussi servir d'apaisement, au contraire inciter à la colère, et la raison elle-même ou la manière dont on va essayer de construire notre propos philosophique est ancrée dans ce corps du chercheur. Enfin, voilà, cette idée aussi que le chercheur est un corps situé.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Christiane Voller, puisqu'on y fait référence, parle souvent de ça aussi, de vraiment de l'insertion du chercheur dans son enquête de terrain. Mais moi, je suis très sensible à la question de l'empathie aussi. Enfin, je veux dire, on cherche, on pense, mais parce que ça, il y a quelque chose qui nous a réveillé d'une certaine manière, d'une torpeur un peu trop théorique. Théophile, veux-tu prendre la parole, Théophile Lavaux?
Mais j'aimerais bien, pour compléter ce que viennent de dire Pauline et Alison, que effectivement, c'est le sous-titre aussi, hein, Nouvelles approches critiques du pouvoir et des dominations, c'est pas simplement de dire, tiens, avec ces nouveaux matériaux que le philosophe aurait à disposition, ça va nous ouvrir à un nouveau champ critique qui serait absolument fabuleux. Non, au contraire, c'est de dire que la critique vient du terrain et que le travail critique vient des rationalités engagées justement dans des rapport de force, puisque c'est difficile de parler de pouvoir ou de pratique de domination sans rapport de force, hein, sans la relationnalité qui les constitue, et qu'il y a un savoir situé de l'expérience de ce rapport de force, parfois plus ou moins conscient par les acteurs, mais en tout cas qui s'éprouve. Et finalement, ce que vient partager le chercheur, à sa juste mesure, c'est-à-dire dans sa position située, parfois très protégée par rapport à des acteurs de terrain, il vient partager, et tu parlais d'empathie, oui, cette épreuve du rapport de force, ou en tout cas, on vient lui restituer la manière dont on le pense dans, par exemple, l'espace de l'entretien. Et donc, la force critique, elle vient pas du philosophe, la force critique, elle vient d'une situation de domination, elle vient d'une situation de pouvoir qui s'exerce et où la position du chercheur, et pas simplement du philosophe bien évidemment, mais la position du chercheur va permettre aussi de créer un dispositif où la parole va pouvoir avoir, disons, se matérialiser différemment dans cet espace de l'entretien, dans l'espace de l'observation. Et puis, un échange intellectuel va pouvoir avoir lieu entre les acteurs et quelqu'un qui est identifié comme un chercheur. Ensuite, je pense qu'il me semble qu'il y a puisque si on parle de ça, et c'est ce que disait Alison, on ne peut pas non plus s'extraire de notre propre rapport de pouvoir dans notre position d'intellectuel, dans notre rapport
j'ai prof. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très... Ouais.
Et, il ne faut pas oublier qu'un prof, comme un avocat ou un médecin, sont des positions d'autorité qui, de par leur nature même, impliquent une position de pouvoir et une position d'ascendance sur ceux à qui ils s'adressent. Ouais. Et que du coup, ça, il faut forcément le prendre en compte, pas croire que parce qu'on l'a décidé, en fait, l'égalité existe ou les hiérarchies s'effacent, mais... ça veut dire aussi assumer que pour des gens qui ne seraient pas forcément qui ne se sentiraient pas forcément légitimes justement avec les institutions qui produisent les savoirs justement légitimes, et ben que le chercheur il puisse être aussi un relais, c'est-à-dire faire attention, ne pas être le porte-voix, mais en même temps que le bénéfice symbolique dont il jouit, il puisse le partager avec les gens dont il dit visibiliser les rapports de force qui sont en jeu dans une situation particulière. Mmh. Et donc c'est pour ça que je pense que la question des espaces de production de la recherche, mais aussi des espaces de restitution des recherches, doivent être particulièrement pensés pour que chacun puisse y avoir sa place, pour que des gens qui ne se sentiraient pas légitimes à exposer leur propre subjectivité, par exemple avec des institutions publiques, eh bien, la position du chercheur va être aussi une possibilité de médiation avec des institutions dont lui, il maîtrise les codes. Mmh. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être le porte-voix, ça ne veut pas dire être le porte-parole, surtout pas, mais ça veut dire de pouvoir faire bénéficier à ceux dont on vient se rétribuer dans sa position d'intellectuel, faire bénéficier aussi de l'accès à ses propres espaces sociaux qui sont souvent des espaces extrêmement privilégiés.
Oui, c'est peut-être une différence entre parler à la place ou parler pour. Je ne sais pas si on peut reprendre ces distinctions. Mais en tout cas, ce que suppose votre rapport de chercheur philosophe au terrain, ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut y aller avec un certain langage. Enfin, on n'arrive pas avec un langage universitaire pour parler à des gens qui ne sont pas dans ce lieu de l'université. Ce qui veut dire qu'on accepte aussi de se destituer d'un certain savoir ou savoir-faire dit intellectuel et de chercheur. Enfin, je suppose que dans les relations intersubjectives que vous avez dans vos terrains, il faut y mettre du sien, il faut y mettre du sien pour aller vers l'autre. Enfin, ça suppose en soi déjà une posture qui n'est pas nécessairement celle du chercheur en institution, non ?
Oui. Après, je rajouterais juste une petite chose sur cette notion de terrain, parce que pour nous, c'est aussi une notion qui n'est pas si évidente que ça. Oui. C'est-à-dire se demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'un terrain. Là où on avait le sentiment qu'on n'appliquait pas qu'on était en décalage avec une méthodologie de sciences sociales telles qu'elles sont très bien élaborées, très construites, c'est-à-dire dans cette idée de recherche de faire un terrain. Nous, on avait effectivement plutôt l'idée d'un terrain qui allait effectivement se mettre à transformer le concept duquel on était parti, ou en tout cas vers lesquels on aimerait penser. Et donc, c'est aussi une question de savoir ce qu'est le sens de ce terrain. Et peut-être qu'on trouvera à l'issue de tous ces séminaires un autre terme que le terrain, je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas impossible, puisqu'il y avait, on avait déjà évoqué cette idée de décapturer les termes et de peut-être sortir de ce terme de terrain qui nous associe trop en fait à une méthodologie de sciences sociales et peut-être quelque chose de trop installé et qui ne met pas assez en jeu tout ce dont on parle là, cette question de l'inquiétude, cette question de ce lien avec l'intolérable, pour reprendre le terme de Foucault, de diagnostic du présent, de l'événement, voilà, c'est. Enfin, je ne sais pas si Théophile et Alison veulent rajouter quelque chose sur.
Peut-être sur la question que tu as posée, je ne saurais pas trop répondre précisément, justement parce que moi, les situations d'intersubjectivité qui me nourrissent philosophiquement sont des situations que je n'ai pas construites comme un terrain sociologique où j'aurais une certaine posture à adopter, mais au contraire plutôt des situations qui font partie de ma vie quotidienne en fait, notamment par exemple de permanence juridique, et où la question c'était pas de rabaisser mon langage universitaire pour être accessible par les personnes, mais au contraire d'apprendre un langage qui est le langage juridique pour rendre des ressources disponibles à des personnes qui en étaient dépossédées, c'est-à-dire l'accès au droit, l'accès aux préfectures, la construction de dossiers de régularisation, etc. Et donc et en fait ces rencontres me nourrissent. Parfois j'en ai fait des entretiens ensuite pour pouvoir citer les personnes et Restituer parle de manière plus claire dans ma thèse. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir eu à réduire en fait mon langage philosophique, d'autant que ma question par exemple qui tourne beaucoup autour du sujet politique, est-ce que vous vous sentez citoyen, est-ce que vous avez l'impression de participer à la vie politique, en fait les personnes ont mille choses à dire là-dessus, des personnes qui sont impliquées dans des collectifs sans papier ou au contraire qui sont par exemple demandeurs d'asile et qui se sentent dépossédées, qui se sentent victimisées ou qui se sentent prises dans des dispositifs qui les rendent passifs, ont beaucoup à dire là-dessus sans qu'on ait besoin de passer par des concepts philosophiques très complexes. Par contre, après, moi, mon travail dans la thèse va peut-être consister à faire de l'écho entre cette parole qui est absolument intelligible, mais à la faire jouer en écho avec des constructions philosophiques qui, elles, sont peut-être nettement moins accessibles pour ces personnes. Mais voilà, j'ai pas, en tout cas, moi, pas ressenti cette... je ressens pas ce besoin de décroître peut-être le niveau de complexité.
Après, mais c'est parce que ma question était mal formulée, c'est-à-dire dans la question du terrain tel que vous le pensez en philosophe, il y a, je crois, quand même une forme de subjectivation qui est à l'œuvre chez vous, qu'on ne rencontre pas dans les institutions formatées, où finalement l'autre et la rencontre n'est pas privilégiée. Or, ce qui se passe dans votre manière de faire de la philosophie autour de cette question du terrain qui est un vocabulaire qui va évoluer, nous disait à l'instant Pauline Vermeren, il y a quand même une manière chez vous de vouloir la rencontre, de la faire. Et je crois que c'est ce qui manque à l'institution, et c'est pour ça que l'institution ne produit plus grand-chose d'intéressant, mais là, c'est mon avis, je le partage avec moi-même. Théophile, il est 56, mais c'est pas grave, on ne fera pas la petite interrogation du truc rationnel, c'est pas grave, mes amis ne sont pas là, mes collègues. Donc Théophile, tu voulais rajouter quelque chose, Théophile
Lavaux. Une petite chose, et je pense que ça c'est aussi une carence dans nos formations académiques en philosophie. Je pense que c'est une disposition à l'écoute, l'autre, à l'écoute du monde peut-être de manière plus générale, à l'écoute justement de ce qui est moins entendable, de ce qu'on entend moins si on ne prend pas le temps de l'éprouver empiriquement.
Oui, et donc, Théophile, tu nous disais tout à l'heure, tu enseignes avec des enfants, enfin je crois que le problème de l'institution, enfin l'université, c'est qu'il n'y a plus d'enseignement, enfin ils n'enseignent plus, pas au sens où nous enseignons, toi avec des enfants, moi avec des jeunes de lycée et de banlieue. Donc cette question de la rencontre, ça passe aussi par, je pense, une attitude, une manière d'être, un vouloir-être avec l'autre, quoi, hein.
Et je crois, et que c'est intéressant que tu parles de la philosophie avec les enfants, puisque moi je n'enseigne pas la philosophie, c'est eux qui m'enseignent leur manière de penser en parlant entre eux. Des cours de discussion philosophique. Ouais. Et justement, moi, la seule chose que je veux leur enseigner, c'est leur capacité d'écoute entre eux. C'est-à-dire de se dire que c'est en écoutant l'autre que finalement on va être capable de penser. Et je pense que ça, c'est une leçon qu'on a tous, des choses à en tirer. Quoi.
Il me semble que ça s'appelle la révolution, mes petits amis, mais je peux me tromper. La parole libre. On est obligé d'arrêter. Oh là là, quel malheur, Pauline.
Est-ce qu'on peut quand même faire signifier quelques événements à venir
rapidement, très rapidement, vas-y Pauline.
Mais dire qu'on fait un autre séminaire, que se tient notre séminaire au second semestre de février à juin au campus Condorcet, avec une programmation qui va être passionnante, plusieurs thèmes sur les déchets, sur les pratiques artistiques. On reçoit d'ailleurs Christiane Voller et Philippe Bazin pour notre première séance. On est en train de publier les actes du colloque de 2022. Donc ça va être un gros livre passionnant. Bon, et on est aussi en réflexion sur un autre ouvrage, mais voilà, ça, on en dira plus.
Bon, alors en tout, voilà. Et en tout cas, toutes les infos, cIPH.org. Et alors là, vous me redites votre site internet à vous qui s'appelle Terrain Philosophique. Super, magnifique. Nous étions sur Aligre FM 93.1 en direct, philosophie au présent, 14 octobre. Et mes collègues que j'embrasse, Michele Saporiti, qui est en Italie, Stéphanie Ronchevski, Degore, malade aujourd'hui, au fond de son lit. Je les embrasse tous les deux. Et on se retrouve, messieurs, dames, le 18 novembre 2023. Merci à Aligre FM et au Collège international de philosophie. Superbe partenariat.
Merci, Nathalie.
Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Bonne journée.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.